Je vous inviterai à lire avec moi un passage qui se trouve dans un psaume. Il s'agit du psaume 116. Il y a 150 psaumes dans la Bible, écrits par différents auteurs, et notamment un d'entre eux est le 116. D'ailleurs, il est anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit, on n'a pas la référence de qui a écrit ce psaume, mais vous allez voir qu'il y a là l'aveu d'une expérience, quelque chose qui s'est produit et passé dans un cœur. Je lis donc psaume 116, verset 1er. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend. » C'est ce que ça signifie. « Il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Amen. Amen. Ce qui fait le plus défaut aujourd'hui, si on devait faire un état des lieux, je vous avoue que j'aurais un peu de mal à mettre tout en haut. Qu'est-ce qui est le pire? Mais il me semble que parmi les choses les plus dramatiques aujourd'hui et qui font le plus défaut, c'est le manque de compassion. Compassion. Ce sentiment qui permet de ressentir la souffrance de l'autre. Quand on voit une image, quand on voit quelqu'un dans la détresse, dans la difficulté, cette capacité d'être ému au-dedans de soi et d'avoir envie de faire quelque chose. Donc, ce sentiment qui va nous pousser certainement à intervenir ou à y remédier, eh bien, Dieu est compassion. Dieu est plein de compassion. Il manifeste sa miséricorde, sa compassion. J'ai lu avec vous ce verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste, et il est plein de compassion. Plein de compassion. Il est capable cet après-midi d'intervenir dans nos vies, quels que soient nos besoins, quelles que soient nos attentes. Entendez le cri de cet homme qui a fait monter vers Dieu sa souffrance, sa peine, sa douleur. Et il a invoqué Dieu, il a supplié Dieu de faire quelque chose. Mais le constat de tout cela, c'est « j'étais malheureux et il m'a sauvé ». Je prie de tout mon cœur que cet après-midi, vous qui êtes malheureux, vous quittiez ce lieu sauvé. Rassuré, encouragé, béni de Dieu, parce que Dieu est plein de compassion. Il veut manifester sa compassion à votre égard, il veut vous faire du bien. Si je dis que Dieu est compassion, ça va à l'inverse du genre humain, de chacun d'entre nous, qui sommes davantage jugement. On est prompt à juger, on est prompt là aussi à porter un jugement d'ailleurs assez lapidaire sur les autres, sur la situation qu'ils traversent, etc. Je me souviens, il y a quelques années de cela, avoir eu une discussion avec des personnes l'objet de la discussion était des personnes qui vivent à la rue, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ont des difficultés et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et le débat en général tourne toujours dans deux axes différents. Soit pauvre homme, pauvre femme, pauvre personne, mais c'est terrible ce qui lui arrive. Ou alors, dans un autre sens, s'il faisait le nécessaire, il n'en serait pas là. C'est le grand écart. Hein. C'est le grand écart. Et on ne sait pas évidemment comment juger une telle situation et que Dieu nous garde de juger une telle situation. Et on serait bien mal de dire c'est de sa faute, c'est pas de sa faute, il devrait, il n'aurait qu'à faire, etc., etc. Parce que la vie, c'est pas aussi limpide que cela. Ça fonctionne pas aussi facilement que cela. On est dans un monde en guerre, on est dans un monde en feu, les choses vont mal. Combien de gens en détresse, combien de gens en souffrance? Et d'ailleurs, la souffrance génère quelquefois la colère, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a des problèmes, on a des difficultés. Alors, on aurait tendance à être en colère à cause de ce qui nous arrive. Donc, difficile de juger si telle réaction est normale, pas normale, ce qui est sûr. C'est qu'aujourd'hui, trop de personnes se sentent vendues à un système et ils n'en sortent pas. J'étais très effrayé de lire cette nouvelle. L'avez-vous certainement lu, cette nouvelle? Dans un pays en Afrique, des jeunes filles se sont enfuies d'une usine à bébés. Usine à bébés. Esclaves de jeunes adolescentes mises enceintes pour produire des enfants. Mais dans quel monde on vit? Ça se passe maintenant, hein? Ça se passe maintenant. Donc, on voit qu'il y a des situations qui nous dépassent largement et qui nous montrent que finalement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont très égoïstes. Beaucoup de gens exercent ce qu'on appellerait le repli sur soi. Et souvent, c'est un mode de survie d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir. Donc, avant de penser aux autres, je vais penser à moi. Avant de penser aux problèmes des autres, je vais penser à mes besoins. Évidemment, ça semble tellement légitime, cela. Le fait est que toutes ces réactions n'engendrent pas beaucoup de compassion. Toutes ces attitudes n'engendrent pas de notre côté beaucoup de compassion. On a tendance plutôt à regarder justement notre vie comme unique et de ce fait, si elle est unique, alors on a intérêt à en prendre soin et malheur à qui viendrait faire une tâche ou entacher notre existence. Il me semble que ce manque de compassion n'est pas la conséquence d'un lent et long processus qui fait que l'homme, petit à petit, à cause de tout ce qu'il a vécu, à cause de tous ses drames, serait aujourd'hui dans une situation ainsi. Et d'ailleurs, les drames peuvent générer pas mal de violence. Je voulais mettre à l'image une photo pour la fin de ce partage, mais peut-être qu'on pourrait la mettre maintenant, si elle est à disposition. Voilà. Vous avez cette dame, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais elle vient d'écrire un bouquin. Elle vient d'écrire un bouquin, son histoire est connue depuis pas mal de temps. D'ailleurs, à vrai dire, depuis 47 ans, son histoire est connue. Sauf qu'en 47 ans, elle a grandi, bien évidemment. Et cette femme que vous voyez là à l'écran est une femme en paix, est une femme heureuse, est une femme qui a vécu une vie avant et qui vit une vie maintenant et qui est vraiment apaisée. Et pourtant, elle avait toutes les raisons du monde de ne pas l'être. Si on voit qui était cette femme quand elle était petite fille, vous allez voir l'image qui devrait apparaître à côté normalement. On est en 1972. Un village du Vietnam a été bombardé au napalm et elle a été brûlée. Et c'est la petite fille que vous voyez au centre de cette photo. Cette photo a fait le tour de la Terre puisqu'elle a reçu un prix. Quand le photographe américain, photographe de guerre, a pris cette photo. Cette femme a subi des dizaines d'opérations. Elle a été brûlée sur tout son dos, elle a été brûlée sur un côté. Et elle a mis des années à avoir un petit peu moins mal. Les souffrances ont duré pendant des années et des années, multiples opérations. Et cette femme est vivante aujourd'hui. Ce n'est pas le effet du hasard, la médecine est passée par là, on a pris soin d'elle, on lui a fait des greffes de peau, mais combien de greffes de peau? Plusieurs dizaines de fois elle est passée sur la table d'opération pour cela. Le fait est qu'aujourd'hui, elle est capable de regarder en face n'importe quel être humain et elle serait capable de regarder en face, de nous regarder en face, de regarder même en face celui qui a lâché la bombe, parce qu'elle l'a rencontré, celui qui a lâché la bombe. Et elle est capable de se tenir en face de cet homme et de lui dire « Je vous pardonne ». Pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que cette femme a fait une rencontre qui a changé sa vie. Et quand des journalistes l'ont interrogée, parce que là, vous trouverez son bouquin en librairie, il vient de sortir. Quand des journalistes, justement, l'ont interrogée et qu'elle a raconté son parcours de vie, qui est effrayant, hein, qui est véritablement effrayant, on pourrait laisser que la première image de cette femme maintenant. On est arrivé à la conclusion et on lui a dit « Mais madame, vous êtes une femme tellement forte, comment avez-vous fait pour surmonter toutes ces épreuves ?» Et cette femme, en souriant, dit « Non, non, vous vous trompez, je ne suis pas forte, mais c'est Jésus qui a été fort pour moi. » Et cette femme a rencontré le Christ et c'est ce qui a changé sa vie. Elle était remplie de haine. Comment ne pas l'être? Elle était remplie d'amertume, remplie de colère. Comment ne pas l'être? Quelquefois d'ailleurs, ces sentiments simulent la vie et donnent à certains de surmonter des épreuves insurmontables. Mais cette femme serait morte aujourd'hui, morte de douleur, morte de haine, de colère, si Dieu n'était intervenu dans sa vie. Et en fait, aujourd'hui, elle est capable de manifester à la fois de la compassion et à la fois de la miséricorde et du pardon. Et ça, ce ne sont pas des sentiments habituels. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les leviers, les ferments de la vie de beaucoup de gens qui ne sont que des vies chaotiques montrent qu'on manque de compassion. Est-on capable encore d'avoir, d'éprouver un sentiment face à la détresse d'un autre quand on n'arrive pas à sortir de sa propre détresse? Est-on capable aujourd'hui de tendre la main à quelqu'un quand on a les deux mains liées, quand on n'arrive pas à se sortir de ses problèmes, de ses difficultés? J'aimerais vous parler de la loi des hommes que l'on trouve exercée encore aujourd'hui et qui a toujours eu cours. Et la loi des hommes n'est pas terrible, hein. La loi des hommes est assez dure. Dans un évangile, vous avez des hommes qui ont amené vers Jésus une femme qui, malheureusement pour elle, a été surprise en flagrant délit d'adultère. On trouve cela dans l'évangile selon Jean, au début du chapitre 8. Ce sont des hommes religieux qui amènent à Jésus cette femme surprise en flagrant délit. Et ils vont la placer devant le peuple, ils vont la placer devant Jésus en disant « Cette femme a été surprise en faute. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de tuer, de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» La loi des hommes, celle que leur a laissée Moïse. Moïse, dans la loi, nous a dit de lapider de telle femme. Alors, une petite précision tout de même. Une autre fois, on viendra vers Jésus avec un autre problème, celui du mariage et du divorce. Et on posera à Jésus une question assez difficile pour la réponse, parce que Dieu a institué le mariage. Et ces hommes diront à Jésus, mais Moïse nous a même autorisé de divorcer, puisqu'il nous a donné un modèle de lettre pour le divorce. Alors, a-t-on le droit ou n'a-t-on pas le droit de divorcer? Et finalement, Jésus va avoir la bonne réponse. Il va leur dire, mais si Moïse vous a donné cette prescription, ce n'est pas que Dieu le voulait, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que s'il n'y avait pas eu au moins ce cadre, de quelle manière aurez-vous répudié, de quelle manière aurez-vous traité votre conjoint, de quelle manière vous serez-vous débarrassé de votre conjoint? Alors pour éviter que la chose soit encore plus dramatique, on va mettre un cadre. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc comprenez bien, Moïse dans la loi nous a dit de lapider de telle personne. Non, c'est la loi des hommes qui est cruelle et dure. La loi des hommes qui incite à la désobéissance, qui incite à de mauvaises actions. C'est la loi des hommes qui entraîne le péché et c'est le péché qui nous conduit à la mort. Si je vous disais que Dieu préviendra Adam et Ève au début, en leur disant, voilà, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Et il n'y a qu'une seule chose que je vous demande de ne pas faire. N'approchez pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous mangerez de son fruit, vous mourrez. En fait, ils étaient dans une liberté absolue. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus libres que nous. Beaucoup plus libres. Le péché n'existait pas. Beaucoup plus libres. Et ainsi, dans ce fameux jardin, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et voilà que le diable viendra sous les traits imagés du serpent et viendra les tenter en disant « Est-il vrai que Dieu vous a interdit de faire quoi que ce soit dans ce jardin ?» Je paraphrase. Et Adam et Ève de dire « Mais non, au contraire, on a le droit de faire tout ce que l'on veut. » Et le diable de reprendre « Non, non, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Vous n'avez pas le droit de manger du fruit de cet arbre, n'est-ce pas ?» Mais vous savez pourquoi Dieu vous l'interdit ? Parce que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, vous deviendrez comme des dieux. C'est là où intervient la subtilité, le mensonge. Et dans le fond, il nous est dit qu'Adam et Ève ont tout d'un coup se posé la question, qu'ils ne s'étaient jamais posé d'ailleurs. Oh là là ! Et si on en prenait ? Et si on en mangeait ? On aurait certainement une vie plus belle. On aurait certainement une vie meilleure. Souvent d'ailleurs, la tentation du péché, c'est souvent cela. C'est avoir ce que l'on n'a pas, pensant que le jour où on l'aura, on vivra mieux, on sera plus heureux, on sera plus content, on sera plus satisfait. Mais c'est un piège, c'est juste un piège, c'est juste une séduction, une erreur, c'est pas possible. Mais donc, ils ont dû discuter un petit moment et puis, il nous est dit que tous les deux ont décidé de franchir le pas et de manger de ce fruit défendu. Alors, entre parenthèses, pomme ou pas pomme, on n'en sait rien. On l'a imagé sous les traits d'une pomme, c'est pas dit. Mais le fait est, c'est le geste. C'est le geste. Ils vont manger de ce fruit. Et en mangeant de ce fruit, qu'ont-ils fait? Ils ont tout simplement dit à Dieu, on n'est pas d'accord avec toi. on a envie de faire ce qu'on veut. Voyez la liberté où ça pousse. Et Dieu ne s'est pas repenti de leur offrir la liberté. Parce que le plus grand cadeau que Dieu vous ait fait, c'est de vous rendre libre, c'est de vous faire naître libre en somme. On n'est pas toujours libre de faire ce que l'on veut, c'est vrai, dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est la conséquence du péché, cela encore. C'est la conséquence des guerres, c'est la conséquence des mauvais traitements. Mais au départ, Dieu a créé l'homme libre. Libre, libre complètement. Et le jour où il a décidé de désobéir à Dieu, il s'est retrouvé esclave. C'est ce qu'il nous faut sans doute réaliser à nouveau. C'est que dans le fond, le péché s'est introduit dans le cœur de l'homme, la désobéissance, et ça a entraîné conséquence sur conséquence, conséquence sur conséquence. Et le mal n'a fait que s'aggraver. Et aujourd'hui, si on voit une planète à feu et à sang, c'est pas arrivé là non plus d'un coup depuis 5 ans, depuis 10 ans, mais depuis l'origine de l'homme qui n'a cessé d'entretenir cette nature mauvaise et douloureuse, eh bien les conséquences sont de plus en plus dramatiques. Et on n'en sort pas en claquant des doigts. Et on n'en sort pas en disant « je vais aller vivre en haut du chaillot, je serai tranquille, plus personne ne va m'embêter. » Parce que l'hiver va passer par là, vous allez souffrir. Hein. Ça va être compliqué là-haut. Il ne suffit pas de dire « mais je vais me sortir de la société et je serai heureux tout seul. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour être heureux, il faut retrouver une relation avec Dieu. Et en attendant de retrouver une relation avec Dieu, on ne fait que précipiter notre malheur par toutes sortes d'erreurs. Et on tombe sous le joug de la loi des hommes, un jour ou l'autre. Et voilà que ce jour-là, on dit à Jésus, cette femme doit mourir. Ça, c'est la loi des hommes, dure, sévère. Si vous cherchez beaucoup de compassion autour de vous, prenez courage, ça va être difficile. Si vous attendez à beaucoup d'aide autour de vous, je ne voudrais pas vous décevoir, mais soyez persévérant. Ce sera peut-être difficile à trouver. Ce ne sera pas si simple, parce que la nature de l'homme est ainsi faite. L'homme n'est pas bon. Je vous le dis d'entrée, il n'est pas bon, l'homme ou la femme. On n'est pas bon, c'est pas vrai. Et on ne le deviendra pas. Toutes les expériences nous montrent qu'on s'en va plutôt vers des expériences qui ne sont pas faciles. Donc, on ne s'en va pas vers le meilleur, c'est pas vrai. Alors, évidemment, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Si vous enfreignez la loi, vous devez en payer les conséquences, vous devez en subir les conséquences. La loi est froide, la loi est dure, la loi est sévère, et on ne discute pas la loi, cette femme doit mourir. Je vous mets une petite parenthèse, juste pour réfléchir un instant. Flagrant délit, ça veut dire pris la main dans le sac. C'est ça un flagrant délit, non? Si je vous dis flagrant délit d'adultère, on est au moins deux, hein? Non? Et il est où l'autre? Flagrant délit, pas pour tout le monde. Il y en a un qui s'est échappé. Il y en a un qui a filé, là. On lui a pas mis la main dessus. Est-ce qu'on a fait exprès? Est-ce qu'on n'a pas fait exprès? On n'aura jamais la réponse. Toujours est-il que, dans l'attitude de ces hommes, il n'y a pas de, compassion. Hein. Cette femme nous a dit, la loi nous dit que cette femme doit mourir. On doit la lapider. Quelle cruelle fin, après tout. Une lapidation. On doit la lapider. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de grâce entre les mains des hommes. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de grâce. Et quand on obtient une certaine forme de justice, elle est plus ou moins perfectible. Alors Jésus va regarder ces gens-là et ne va rien leur répondre. Rien. Pendant un moment. Jusqu'à ce qu'il l'interroge à nouveau. Et après l'avoir interrogé un peu plus précisément, Jésus va leur donner une réponse. Parce que s'il n'y a pas de compassion, s'il n'y a pas de miséricorde, s'il n'y a pas de grâce, est-ce à dire qu'en face, il n'y a pas de faute? Est-ce à dire qu'en face, il n'y a pas de péché? Et Jésus va s'adresser à tout cela en disant que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre cette femme. Que celui qui n'a jamais commis de faute commence à ramasser une pierre et à lancer la pierre. Allez-y! La Bible dit, écoutez bien, tous. Vous entendez? Tous, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Il n'y en a pas un qui a pris une pierre. Il n'y en a pas un qui a fait le geste de lancer la pierre. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savaient tous qu'ils avaient fauté un jour ou l'autre. Ils savaient tous qu'ils avaient des choses à se faire pardonner. Ils savaient tous qu'ils auraient eu besoin de miséricorde et de compassion en face si eux-mêmes avaient été pris en flagrant délit d'une faute, d'une gageure. Si eux-mêmes, ils avaient été attrapés ce moment-là, ils auraient dû avoir droit à de la miséricorde. Et tout d'un coup, ils se voient de l'autre côté. Finalement, cette femme, c'est moi. Et je veux la lapider, je veux la tuer, mais si les autres m'avaient pris en faute, c'est moi qui serais à sa place. Alors je préfère m'en aller, je ne vais pas juger cette affaire. La loi des hommes est ainsi faite. Qu'a fait Ponce Pilate au moment où il faut juger Jésus ? Je m'en lave les mains. C'est ce qu'il a dit, hein ? Je m'en lave les mains. Débrouillez-vous. Je ne veux rien avoir avec la mort de Jésus, ça ne me regarde pas. Et pourtant, il devait juger. Voilà la justice des hommes, elle est bien fragile, bien imparfaite. Et ne pensez pas qu'on y trouvera la perfection parce que l'être humain est pécheur et ça ne fonctionnera pas. Ailleurs, on trouve la loi des privilèges. Vous savez ce que c'est la loi des privilèges ? C'est moi d'abord, parce que je suis privilégié. Et puis les autres, on verra plus tard. Un jour, Jésus est en train de marcher sur une route poussiéreuse quelque part en Samarie. Et voilà qu'arrive près de Jésus et des disciples une femme qui se met à crier, littéralement à crier, « Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. » Alors, il faut comprendre la scène, qu'est-ce qui est en train de se passer. Cette femme est là dans une grande détresse. Pourquoi donc ? Parce qu'elle a un enfant, une enfant qui est malade. « Aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Aie pitié de moi. » Jésus ne dit rien. Jésus ne dit rien, pas un mot. Il s'arrête pas, il ne manifeste aucun intérêt, en somme. Rien, absolument rien. Ce que je trouve terrible, ce n'est pas que Jésus ne manifeste rien, mais c'est tout d'un coup, face à cette pauvre femme, voir la méchanceté, le racisme même, que vont manifester ceux qui sont avec Jésus. Le texte dit ceci, après que cette femme ait crié que Jésus n'ait rien dit, voici que les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. C'est une preuve manifeste d'une absence totale de compassion. Absence totale de compassion. Cherche pas à comprendre ce que cette femme est en train de vivre. Ils s'en moquent totalement. La seule chose qui les intéresse, c'est qu'elle s'en aille pour ne plus entendre ses cris derrière eux. Mais dans quel monde on vit ? Renvoie-la ! Elle crie derrière nous. Je ne suis même pas sûr, de vous à moi, je ne suis même pas sûr qu'ils auraient dit la même chose s'ils n'avaient pas vu Jésus, l'attitude de Jésus. Parce que pendant un temps, cette femme crie et Jésus ne dit rien, semble se désintéresser d'elle. Et c'est fort de l'attitude de Jésus qu'il se dit, après tout, Jésus ne dit rien, donc il ne s'en intéresse pas. Alors à nous de dire à Jésus, bon, il faut aller un petit peu plus loin, puisque tu ne t'en intéresses pas, renvoie-la, qu'on retrouve notre paix, qu'on retrouve notre tranquillité. C'est fou, hein ? Comme notre bonheur peut écraser, éteindre le malheur des autres. Si les autres sont malheureux, tant que moi je vais bien, ben je fais avec. Hein. Et dites, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Faut pas aller bien loin, allumer la télé, hein. Écouter les infos. C'est le monde dans lequel on vit. Hein. Souvent, quand une nation va prendre défense d'une autre nation, c'est qu'il y a un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, on n'y va pas. S'il n'y a pas un intérêt d'argent, un intérêt politique, stratégique, mais on n'ira pas, jamais de la vie. D'abord moi, chacun se débrouille. Hein. Et ils n'ont qu'à se débrouiller tout seul. Cette femme, elle n'avait qu'à se débrouiller toute seule. Il n'y a personne pour elle. Mais entendez la réponse de Jésus. Parce que dans le fond, Jésus a attendu sans aucun doute pour en arriver là. Parce qu'une fois que ces gens, ses disciples, ont dit à Jésus, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus va dire, « Je n'ai été envoyé au peuple d'Israël, aux brebis perdues de de la maison d'Israël. Cette femme est une Libanaise, elle est syrophénicienne, elle vient du nord, elle n'est pas juive, elle n'est pas du pays d'Israël. Et ainsi, on va faire preuve de racisme. C'est pour nous, c'est pas pour les autres. Ce qui pourrait conforter d'ailleurs les disciples en disant, ah ben tu vois bien, va-t'en, il n'y a rien pour toi, tu n'es pas de la tribu d'Israël. Mais cette femme insiste. Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle vient, cette femme, et elle se prosterne devant Jésus. Secours-moi. Jésus enfonce le clou. Et il dit, n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Quelle injure! Quelle injure! Et regardez cette femme. C'est vrai. Je ne vaux pas plus que ça. C'est vrai. Je ne mérite rien d'autre. Mais si au moins je ramasse quelques miettes, ça devrait me suffire. Jésus va guérir l'enfant de cette femme. Jésus va guérir le cœur de cette femme. Et Jésus va corriger ses disciples malveillants en disant à cette femme, « Ta foi est grande, ta foi est grande. » La loi des privilèges, ça ne veut rien dire. Cette pauvre femme, elle n'a pas eu de chance. Pourquoi son enfant est malade? Allez savoir. Vous allez expliquer tous les problèmes qui nous tombent dessus, on ne peut pas. C'est comme ça. La vie est faite de joie, de peine, de bonheur et de malheur. Et si on commence à disséquer tout cela, mais on en a jusqu'à la fin de nos jours. On s'en sortira jamais. Le fait est que, quelquefois, la vie va mal. Et quand la vie va mal, on fait quoi alors? Si on n'a personne pour nous aider. Cette femme a crié. Mais qui ne crierait pas dans une situation comme ça? Manque de compassion. Elle crie derrière nous, elle nous fatigue. Mais si tu avais été dans la même situation, tu n'aurais pas crié, toi? Ben, il aurait certainement crié, lui aussi, hein. Ce disciple qui est prêt à la renvoyer. Cette femme, c'est une étrangère, oui, mais c'est une maman. On ne regarde pas la couleur de peau. On ne regarde pas la situation sociale. Elle est riche, elle est pauvre. Elle mérite pas. On ne regarde jamais ça. On ne peut pas regarder ça, ce n'est pas possible. Elle ne vaut rien. Mais elle valait rien aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu, elle valait beaucoup. Et c'est ce que Jésus a manifesté. Elle valait beaucoup. Et je peux vous dire une chose, sans me tromper, absolument, je suis persuadé de cela, vous valez beaucoup aux yeux de Dieu. Beaucoup aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si, quand vous regardez dans la glace, vous avez l'impression de valoir beaucoup. Quelquefois, on se mésestime, d'autres fois, on se surestime, sans aucun doute. Mais quelquefois, on se sent mal aimé. Dieu m'a oublié, j'ai trop de problèmes, il ne pense pas à moi. C'est ce que cette femme a dû se dire. Elle a dû se le dire deux fois plutôt qu'une, quand Jésus ne dit rien. Elle crie, il ne dit rien, il continue impassible, il continue sa route. Et elle crie encore, et voilà qu'on lui dit de s'en aller. Et voilà que Jésus lui-même va dire, mais ce n'est pas pour toi, tu n'es qu'un chien, il n'y a rien pour toi. Mais il y a de quoi craquer. Sauf qu'elle persévère. Mon ami, attendez-vous à Dieu. Persévérez. Ne lâchez pas l'affaire, comme on dit aujourd'hui. Ne lâchez pas l'affaire. Continuez à croire que Dieu va intervenir. Et cette femme, qui effectivement, aux yeux de quelques-uns, ne prétendait à rien, ne valait rien, parce qu'aux yeux de Dieu, elle valait beaucoup, elle va obtenir la bénédiction de Dieu. Parce qu'il faut le savoir aussi, et sachez-le, personne ne mérite rien. Vous ne méritez pas la faveur de Dieu. Je ne la mérite pas. Pas plus qu'on mérite le malheur. Ça nous tombe dessus. Mais notre péché nous a poursuivis et conduits dans ces chemins de traverse et dans ces malheurs. Certainement, la réalité, c'est qu'on ne mérite rien. Mais Dieu a tant aimé le monde, et vous et moi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous, moi, n'importe qui, croit en lui, ne périsse pas, mais la vie éternelle. Le salut, c'est un cadeau de Dieu. La guérison, c'est un cadeau de Dieu. La bénédiction, c'est un cadeau de Dieu. La miséricorde et la compassion de Dieu, c'est un cadeau pour vous cet après-midi. Il n'y a pas de privilège avec Dieu. On ne mérite rien. On est juste béni parce que Dieu veut nous bénir. Amen. Il y a la loi de la force. Alors celle-ci, elle s'exerce. Et sans rentrer dans les détails, vous retrouverez dans l'évangile de Luc un texte assez fascinant par les réactions que l'on peut avoir quelquefois. Et il nous est dit que Jésus va demander à quelques-uns de ses disciples d'aller dans un village un petit peu en avance pour aller trouver une chambre pour que toute la troupe puisse se reposer, avoir un toit et dormir. Sauf que dans Palestine, vous aviez la Galilée, la Judée et au milieu une région qui s'appelait la Samarie. la Samarie. Et dans cette région, on n'aimait pas trop les Juifs, c'était des peuples mélangés. Et quand on descend de la Galilée, en général, on contournait cette zone-là, mais Jésus dit, allez en face, il y a un village sur la colline, allez-y, et on est en Samarie. Et quand on arrive là, l'habit montre qu'on n'est pas samaritain, qu'on est juif, alors on frappe à une première porte, ah non, non, il n'y a pas de place. On frappe à une deuxième porte, non, non, il n'y a pas de place. Et une troisième, une quatrième, bref, on n'en veut pas dans ce village. De Jésus, on n'en veut pas. Parce que c'est un juif, parce qu'on est raciste, parce qu'on ne les aime pas, parce qu'on a des antécédents, parce qu'on a vécu des histoires les uns contre les autres, on n'a pas avalé tout cela, il y a de la colère, il y a de la vengeance dans l'air, donc on n'en veut pas, on n'en veut pas. Mais les disciples sont vexés, vexés. Ils retournent bredouille devant Jésus en disant, ils ne nous veulent pas. Vous imaginez la vexation si on vous disait ça? Ah, on ne vous veut pas. Mais pourquoi? Mais il y a de la place. Oui, mais pas pour vous. C'est vexant quand même. Alors, au lieu d'être dépité, de se dire, bon, ben, on va où maintenant? Ah non, ils ont une meilleure solution. Preuve de leur compassion extrême. Seigneur, veux-tu que l'on commande que le feu du ciel tombe et rase le village, une bombe nucléaire? C'est pas possible de faire ça? Jésus les regarde en disant, mais vous dites quoi là? Parce qu'on ne nous ouvre pas une maison, on va raser tout le monde? On va tuer tout le monde? C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est encore un peu ce qui se passe aujourd'hui. La loi de la force. Si tu es fort, tout le monde sera gentil avec toi. Si tu n'es pas fort, tant pis pour toi. Mais si tu es fort, prêt à tuer des innocents, non peut-être pas frapper à toutes les portes, hein. Prêt à tuer des enfants, prêt à tuer des vieillards, prêt à tuer finalement des ignorants. Celui qui frappe le plus fort a raison, c'est ce que beaucoup disent. Mais celui qui a le pouvoir a-t-il la liberté? Et celui qui en use, il est bien évidemment coupable. Il est plus facile de perdre que de sauver. Qui a déjà perdu ses clés? Vous avez remarqué comme c'est facile à perdre des clés quand on se met à les chercher? Compliqué, hein? Compliqué, hein? Et on s'énerve. Pour peu qu'on soit plusieurs à la maison, on va accuser l'autre. Tu les as mis où? Même si c'est nous, on ne sait pas trop, mais bon, ça défoule, hein? Ça défoule, hein? On accuse. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que c'est plus facile de perdre que de sauver. Eh bien, Dieu, en envoyant son Fils sur la terre, n'a pas laissé l'homme se perdre en disant c'est plus facile, on les laisse partir avec leur terre, ils vont tout faire péter, tout faire exploser, et puis on refera une autre terre, et puis on va refaire un autre plan, ça marchera certainement mieux. Il n'a pas fait cela. Il est descendu sauver l'humanité. Et il vient vous sauver, même si vous êtes en morceaux, même si ça ne va pas, même s'il est impossible de coller les morceaux, même si on rassemble tout, il va manquer des pièces, on ne sait plus où on les a mis, ce n'est pas possible. À Dieu, tout est possible. Dites, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle s'accomplit. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Il est un Dieu de miracles. Je termine sur un dernier aspect. C'est la loi du royaume de Dieu. C'est celle sur laquelle je voulais vous laisser. Et elle pourrait se résumer par ce mot, compassion. Compassion. À chaque fois que vous voyez Jésus intervenir, il y a souvent un acte de compassion derrière. Manifestement, il crie, c'est dit ainsi. D'ailleurs, dans un psaume de l'Ancien Testament, il est dit ceci, « Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde ?» Eh bien, j'ai envie de vous dire, non, il n'a pas oublié d'avoir compassion. Dans l'évangile de Marc, je vais juste vous citer ces quelques exemples. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, verset 40, écoutez donc, un lépreux vint à Jésus et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, il fut purifié. C'est pas extraordinaire cela? Ému de compassion, je le veux, sois pur. Et il a été instantanément guéri. Dans l'évangile de Luc au chapitre 7, un autre récit, évangile de Luc chapitre 7 et verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Un sentiment qui permet de ressentir ce que l'autre éprouve dans le but d'agir et de faire quelque chose. Ému de compassion, il s'approcha et lui dit « Ne pleure pas ». Il toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et on a affaire à une résurrection, et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple ». Béni soit Dieu, Dieu visite la terre encore aujourd'hui. Dieu visite la terre encore aujourd'hui. Il peut guérir, il peut délivrer, il peut libérer. Encore un autre exemple, Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18 et à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Alors, ne cherchez pas, lui, il est à la Banque de France pendant 350 ans. Il ne s'en sortira jamais. C'est impossible. C'est une dette colossale, c'est des millions d'euros. Il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ça part d'un bon sentiment, mais le patron sait que c'est impossible. Sauf qu'il voit le bon sentiment. Ému de compassion, ému de compassion. Le maître lui remit la dette et le laissa aller. Ça, c'est la compassion de Dieu. Vous avez sur le dos une dette qui ne peut pas être remboursée. Celle de votre péché. Celle de votre âme. Vous êtes condamné à cause de vos fautes. Vous y pouvez quelque chose, mais vous ne pouvez rien faire pour échapper à l'enfer. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus est mort à la croix afin de prendre nos fautes. Il prend mes dizaines de talents, milliers de talents, de fautes, de malheurs, comme il est dit dans ce texte, que je ne peux rembourser. C'est complètement impossible. Je suis vendu au péché, dit l'apôtre Paul, comme cet homme sera vendu, lui, sa femme, ses enfants. Il n'aura plus rien esclave jusqu'à la fin de sa vie. Et nous le sommes esclaves. Et cela nous entraînerait jusqu'en enfer pour l'éternité, dans des pleurs, des grincements de dents, une faillite éternelle. Alors Dieu a décidé de mettre un terme à cette malédiction en donnant sa vie. Malheur quiconque est pendu au bois, Jésus a pris votre malédiction sur lui. Alors cet homme peut s'en aller de la maison tout heureux, tout joyeux. J'imagine que ça a été le plus beau jour de sa vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, allez, pas grand-chose. Lui, il doit des millions, et à lui, on lui doit 2-3 000 euros, on va le dire comme ça, à titre de comparaison. Hein. Il le saisit et l'étranglait, costaud quand même, hein. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». La même chose que lui a dit devant l'autre. Hein. Sauf que lui, il n'est pas ému de compassion. Mais alors absolument pas. Absolument pas. « Aie pitié, aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison. Vous vous rendez compte? Le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter au grand patron tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Inutile de dire que c'est condamné à vie, prison à vie. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. La notion de compassion est obligatoirement liée à la notion de pardon. Souvenez-vous l'image de cette femme, on peut la remettre, cette femme, Kim Fook, cette femme qui a été martyrisée, meurtrie, impossible d'avoir de la compassion pour tes bourreaux, à moins que Dieu ne te fasse grâce et qu'il change ton cœur. On ne peut aimer les autres, s'aimer soi-même déjà et aimer les autres, que si notre cœur est changé. Ce n'est pas possible autrement. Et le cœur de cette femme a été changé. Voilà pourquoi elle peut aimer aujourd'hui même ses bourreaux, parce qu'elle sait qu'elle est aimée de Dieu. Cet après-midi, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de la compassion de Dieu. Mais sachez qu'il comprend vos problèmes. Si un comprend, c'est lui. Notre Dieu n'aura-t-il pas compassion ? N'y aura-t-il pas de compassion ? Est-il possible que Dieu ait oublié d'avoir compassion ? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde ? Non, pour l'instant. Vous pouvez profiter de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'un jour vient où ce sera trop tard. Un jour vient où ce sera trop tard. N'attendez pas de mourir et de dire « j'irai dans l'au-delà, je verrai comment je m'en sortirai, je rencontrerai certainement ce Dieu s'il existe et je m'expliquerai ». Non, ne faites pas cette erreur. Vous ne pourrez pas. Vous serez en enfer, terminé pour tout le temps. C'est maintenant que vous pouvez faire la paix avec Dieu. Alors, je ne vous demande pas d'avoir de la compassion. Je vous demande simplement d'avoir de l'humilité. Souvenez-vous de cette femme à qui on a dit « tu ne vaux rien, on ne te répond même pas ». Va-t'en, tu cries derrière nous, ça nous agace. Cette femme s'est humiliée, elle a accepté toutes les humiliations parce qu'elle voulait que sa fille vive. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vivre ? On ne peut pas s'humilier ? On ne peut pas demander pardon à Dieu ? On ne peut pas se frapper la poitrine en disant « sois apaisé envers moi, je suis un pécheur » plutôt que de pointer la faute sur tous les autres et la terre entière ? On ne peut pas être vrai cet après-midi au moins une fois pour dire « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi ». Si vous agissez ainsi, Dieu n'a pas oublié d'avoir compassion. Il exercera sa miséricorde à votre égard et il vous fera passer de la mort à la vie. Vous l'entendez ? De la mort à la vie, spirituellement, moralement. Et votre vie va changer. Vous allez voir que tout va être transformé parce que Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Je vous recite ce psaume du commencement. « J'aime l'Éternel. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend ma voix et mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Amen. » Est-ce qu'on peut prier un instant ensemble ? Et voulez-vous vous incliner avec moi ? Et nous allons prier, fermer nos yeux un instant, courber nos fronts et demander à Dieu sa grâce. Nous allons ensemble nous approcher de Dieu pour lui demander de venir toucher notre vie, toucher notre être, toucher notre cœur, nous accompagner, nous bénir, nous fortifier. Et nous allons croire que Dieu va simplement poser sa main sur nous, comme ce lépreux qui a été purifié, comme cette femme veuve qui vient de perdre son fils, dont Jésus touchera le cercueil de son fils en amenant la vie et a vaincu la mort ainsi, en rendant la vie à ce garçon qui était mort. Dieu va vous toucher cet après-midi et va vous accorder sa grâce. Seigneur, nous venons devant toi et nous réclamons ta grâce. Nous venons devant toi parce que nous avons besoin de ta miséricorde. Étends ta main, je t'en prie. Manifeste-toi cet après-midi. Tu connais nos besoins, tu connais nos attentes, tu connais nos soupirs, tu sais ce qu'il nous faut, oh Dieu. Alors viens cet après-midi, nous sommes tous pareils, des êtres humains qui avons besoin de ta grâce, des êtres humains qui avons besoin de ta paix. Alors je t'en supplie, viens, 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 manifeste-toi maintenant et glorifie-toi. Nous nous attendons à toi, nous comptons sur ta grâce. Tu es le Dieu parfait, le Dieu de miséricorde, le Dieu grand, le Dieu qui aujourd'hui encore sauve et délivre. Étends ta main, Fais-nous du bien au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. Si quelqu'un est dans ce lieu avec une vie brisée, avec une vie détruite, ou en tous les cas, avec des bonheurs qui lui ont échappé, avec des rêves qui ont été anéantis, qui ont été foulés à terre, qui ont laissé de l'amertume, ont laissé de la colère, ont laissé dubitatif en disant « Mais y a-t-il un Dieu ?» J'aimerais que tu puisses le convaincre cet après-midi. J'aimerais que tu puisses parler à son cœur et lui montrer ta grâce et ta bonté. Étends ta main, oui, étends ta main. Oui, manifeste-toi au Père. Agis, je t'en prie maintenant, pour la seule gloire de ton nom. Amen.